L'AJT du local.
À 12h15. Sur 107.9, 101.7, à l'autre radio, à Château-Gontier et puis à Laval aussi.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans l'AJT du local. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 10 juin et nous sommes évidemment très heureux et très heureuses d'ailleurs puisque c'est un studio uniquement féminin aujourd'hui, comme d'habitude, hein, mais c'est que parfois je suis toute seule. Là j'ai la chance d'être entourée, bien entourée d'ailleurs, avec Juliette et Claire. Salut à toutes les deux.
Salut Marie, salut tout le monde.
Salut.
Alors, avec les micros, c'est mieux, j'en étais sûre. Pas il fallait problème. Que je commence avec une petite boulette. Bonjour à toutes les deux, en cœur.
Bonjour.
Fabuleux. Comme vous le voyez, en tout cas, on est toutes les trois très contentes d'animer cette émission. Émission où nous allons parler justement de cette mobilisation des psychologues cet après-midi prévue à Laval. Mobilisation à partir de 13h30. Vous entendrez justement pourquoi, puisque on le sait, c'est un métier qu'on voit rarement dans la rue. Là, les raisons de manifester, en tout cas, elles sont là. Vous les entendrez dans le reportage. L'interview, c'est toi Claire qui l'a faite avec une association, je te laisse la présenter.
Oui, c'est Anorexie Boulimie à Laval et c'est une association qui permet d'avoir des groupes de parole pour parler de ces troubles alimentaires, donc très intéressant et qui touche de plus en plus de monde.
Et puis, donc ça évidemment, vous aurez la chance de l'entendre lors de l'interview. Nous ferons aussi un petit point sur les élections départementales avec Juliette, justement. Et puis en fin d'émission, vous entendrez une chronique d'Agnès qui avait été enregistrée il y a déjà quelques temps, mais qui vous permettra peut-être de découvrir ou de redécouvrir l'EMM de Laval, l'école moderne de musique.
Tout de suite, Marie, un point sur l'actualité, un contrat avec Lactalis, des organisations de producteurs et Leclerc pour une hausse du prix du lait.
C'est une première pour ce type de contrat tripartite conclu hier pour 3 ans. Il concerne le lait de consommation conventionnelle UHT, fabriqué par Lactalis pour son client Leclerc. Vendu sous marque distributeur, 68 millions de litres de lait seront vendus à 370 euros la tonne, soit une hausse de 5 euros par tonne. Selon Jean-Marc Bernier, le directeur général de France de Lactalis, l'entreprise poursuit la revalorisation du prix du lait entamée ces dernières années.
Les services des urgences de l'hôpital de Laval pourraient fermer cet été.
C'est en tout cas ce que craint le syndicat Force Ouvrière qui affirme qu'il y a 90 trous dans les plannings du service pour la période estivale. Le syndicat qui affirme aussi que les hôpitaux de Mayenne et de Château-Gontier sont concernés par ces problèmes d'effectifs. Plusieurs scénarios auraient été proposés pour y pallier, dont la mise en place d'un service d'urgence sans médecin à certains moments de la journée ou la fermeture des urgences la nuit.
Trouvons ensemble nos futurs top médecins.
C'est le slogan de la campagne lancée par la municipalité de Saint-Ouen-des-Toits pour recruter son futur médecin. Celle en poste jusqu'ici part à la retraite le 30 juin prochain. 2200 patients pourraient alors se retrouver sans médecin généraliste. Alors pour éviter cette situation, un site internet notamment a été mis en place, topmedecin.com.
Un motard gravement blessé à Entrammes.
L'accident s'est produit hier vers 16h30 au lieu dit le Breil-Aufranc, près de l'aérodrome d'Entrammes. Après un ralentissement sur la Nationale 162, un motard a percuté une voiture par l'arrière. Grièvement blessé, il a été transporté par les pompiers au CHU d'Angers.
À Saint-Fort, un seul bureau de vote pour les prochaines élections.
Oui, les deux bureaux de vote habituels, situés à la salle des marquises et à la mairie, sont regroupés en un seul pour les élections départementales et régionales des 20 et 27 juin prochains. Ce sera à l'espace Jacques Brel. Le tout pour faciliter l'organisation logistique de Château-Gontier-sur-Mayenne. Ces 14 bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h.
L'association Castel Shopping récompensée à Château-Gontier.
Et oui, l'association de commerçants a reçu le prix Mercure de l'Union la plus fédératrice, décerné par la Chambre de commerce et d'industrie de la Mayenne à Laval. Les coprésidentes de Castel Shopping ont mis en lumière notamment l'opération Noël de folie, à laquelle plus de 200 professionnels ont participé. À noter aussi la belle évolution de l'association, passée de 69 membres en 2020 à 84 cette année.
Et Marie, les psychologues en grève ce jeudi à Laval.
Rassemblement prévu à 13h30 devant la préfecture de la Mayenne avec un mot d'ordre national contre le projet de création d'un ordre des psychologues et plus généralement contre la volonté de l'État de réglementer la profession. Un métier rarement mobilisé dans la rue, mais l'opposition à cette réforme est très forte selon Elina Quinton. Elle est psychologue dans un hôpital psychiatrique et porte-parole du collectif organisateur de la manifestation.
Il y a une transformation des lieux d'accueil qui existent déjà, comme les SMPP par exemple, qui deviennent là des plateformes de diagnostic pour les enfants qui souffriraient là presque tous de troubles neurodéveloppementaux. La première question qui peut se poser, c'est quid de tous les enfants et toutes les familles qui seront laissés sur le carreau parce qu'il y a une phobie scolaire qui ne rentre pas dans les troubles neurodéveloppementaux, parce qu'on ne va pas très bien, parce qu'il y a un petit frère, une petite sœur qui est née, ça bouleverse les choses, parce qu'il y a des angoisses. En fait, ce qui est en train de se jouer, c'est plutôt une paramédicalisation des psychologues. Si vous n'allez pas bien, il faudra d'abord que vous passiez par le médecin généraliste qui, en fonction d'un certain nombre de critères définis par la circulaire, pourra vous orienter vers un psychologue dans la maison de santé pour un bilan. Après le bilan fait, c'est le médecin qui verra si effectivement on prescrit 10 séances pour parler. Si au bout de 10 séances, la personne veut continuer de rencontrer le psychologue, il faut qu'il retourne voir le médecin généraliste. Et là, le patient aura éventuellement le droit d'avoir 10 séances supplémentaires. Mais après, il n'y aura plus de remboursement. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas envie de dire les raisons pour lesquelles ils souffrent à leur médecin généraliste. Et l'autre point, c'est les critères d'exclusion. Si quelqu'un a rencontré un psychiatre pendant les 3 dernières années, il faudra qu'il ait des troubles dépressifs légers à modérés, ne pas avoir eu de prescription anxiolytique. Là où il y a déjà des endroits en accès libre qui sont les services associatifs, on va dire, on pourra citer les hôpitaux, les CMP, centres médico-psychologiques, les CMPP, la maison des adolescents. Qu'est-ce qui fait qu'on ne renforce pas ces lieux qui permettent à des gens de venir s'adresser sans avoir à payer? Le protocole qui veut s'appliquer là dans ces textes de loi, c'est l'équivalent de ce qu'on fait quand on a une jambe cassée. Hein, on a un plâtre, on passe une radio avant, on met un plâtre, à mi-parcours on a une autre radio, et puis à la fin on enlève le plâtre et puis on a la radio. On ne peut pas faire comme ça avec la santé psychique des gens. Vous savez, quand on souffre, faire la démarche d'appeler un psychologue, c'est quand même pas n'importe quelle démarche. Et mettre un obstacle entre l'appel d'un patient à un psychologue en mettant un généraliste au milieu, vous faites obstacle, donc vous repoussez. Et finalement, il y a des gens qui n'oseront pas appeler, qui n'oseront pas dire au médecin.
Une situation inadmissible pour la psychologue de laisser des patients sans solution. Un recours aurait même été déposé au Conseil d'État contre ce projet de loi. Et puis un tout autre sujet élection, puisque dans 10 jours, les Français sont appelés aux urnes, non pas pour une, mais 2 élections, les régionales et les départementales. Initialement prévues en mars, elles ont été reportées au 20 et 27 juin en raison de la crise sanitaire. Aujourd'hui, on s'intéresse aux départementales. Élections assez méconnues, elles ont pour enjeu le renouvellement intégral du conseil départemental pour un mandat de 6 ans. Mais justement, Juliette, d'abord une première question, comment fonctionnent les élections départementales ?
Pour ces élections, les candidatures se font par binôme, un homme et une femme obligatoirement depuis 2015. Les départements sont divisés en cantons, au sein desquels se présentent plusieurs binômes. En quelques chiffres, le départemental en Mayenne, c'est 54 binômes répartis dans 17 cantons, pour un total de 34 conseillers à élire.
Et les élections se déroulent en 2 tours, c'est ça ?
Exactement. Une condition pour se maintenir au second tour, obtenir le vote de 12,5% des inscrits. Mais si un binôme obtient la majorité absolue au premier tour, il est directement élu. Il est donc possible qu'il y ait 3 voire 4 binômes au second tour. Le binôme qui obtient le plus de voix est alors élu.
Donc on a bien compris comment ça marche au niveau du scrutin, mais à quoi sert le conseil départemental ?
Alors des domaines assez divers relèvent de sa compétence, notamment l'action sociale, qui représente plus de la moitié de son budget. Aide sociale à l'enfance, accompagnement des personnes âgées et handicapées ou encore gestion du RSA font partie des missions du conseil départemental. Mais ce n'est pas tout, le département s'occupe aussi de la gestion des collèges, des routes départementales et participe au financement d'actions culturelles et sportives. Il est également le principal financeur du service départemental d'incendie et de secours en charge des casernes de pompiers.
Et alors en Mayenne, Juliette, qui se présente aux élections ?
Alors on ne va bien sûr pas faire la liste des candidats, mais quelques éléments permettent d'y voir plus clair. Première chose que l'on peut remarquer, le Rassemblement National présente des candidats dans chaque canton mayennais. Mais pas de campagne électorale ni de communication au niveau local. Le parti affirme ouvertement sa volonté de s'implanter sur le territoire en vue des présidentielles de l'année prochaine. La majorité sortante de centre-droit espère, elle, se maintenir au pouvoir et continuer à mener sa politique, avec des candidats présents dans 16 cantons sur 17, notamment le président sortant Olivier Richefou, candidat sur le canton de Saint-Berthevin.
Et du côté de la gauche, Juliette ?
La gauche, qui a remporté les dernières municipales de Laval, espère continuer sur cette dynamique en renversant la majorité départementale. Elle mise sur une stratégie d'union, notamment avec les écologistes, mais pas d'accord trouvé avec la France insoumise. Les candidats de gauche sont surtout présents dans les cantons autour de Laval, de Château-Gontier et de Mayenne. Plusieurs des candidats font d'ailleurs partie de l'équipe du maire de Laval, Florian Berco.
Merci beaucoup Juliette pour cet éclairage, pour donner les principales clés en tout cas de ces élections départementales ici en Mayenne. On rappelle, pour voter, il faut bien sûr avoir 18 ans et surtout être inscrit sur les listes électorales. On peut aussi voter par procuration. Avec la crise sanitaire, les procédures ont été assouplies. Une même personne peut détenir deux procurations au lieu d'une seule auparavant. Il est conseillé bien sûr de réaliser sa procuration le plus tôt possible. Vous pouvez toujours le faire, mais plus elle est faite tôt, plus vous êtes sûr que votre bureau de vote l'a reçu à temps. On va parler justement de cette association que Claire a rencontrée, la SAB, la Solidarité Anorexie Boulimie 53, donc Mayenne. Ce sera dans 3 minutes, juste après Daft Punk avec leur morceau John Dope. 1, 2, 1, 2, 3, do it! I woke up refreshed, relaxed, ain't got no monkey on my back. So I get down, do the boogaloo, sunglasses on all day through. Ain't no stressful time, yo, that's my steez, so that's why.
Check this out.
I like to waste my time, yeah, yeah, yeah. While others huffing, I'm puffing on a sweet life. Well, I don't know, no, no. I lay back and I watch the grass grow. I like to waste my time, yeah, yeah, yeah. While others huffing, I'm puffing on a sweet life. Well, I don't know, no, no, no. I take it slow, that's why they call me Mr. John Doe. I'm laid back, good vibrations, touched by the sun, sweet sensation. All is good, I got a mellow mind. Ain't got no stressful time. So clap your hands if you're down with the vibe. Say yes if you're living your life. Clap your hands if you're down with the vibe. No stress, no stressful times. I like to waste my time. Yeah.
Yo, stressed and blessed with no such thing. Glide through skies like I got wings. Fly with the bombs, hitting the Alpine. That's peace of mind. What a vibrant thing. Yup, the vibe I'm in. Vitalizing like vitamins. Energizing the positive. 9 to 5, spent high five in kids. While this music I pioneer. Recline, excellence. A mood cries like an exodus. It's all part of my design. When scorching, shades on when it's shining. So common sense. Like y'all applauding while auditing them. The phonics with the dopeness here. Yo, JD, what the chorus is.
So clap your hands if you're down with the vibe. Say yes if you're living your life. Clap your hands if you're down with the vibe.
No, 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 no,
no stress, no stressful times. I like to waste my time.
Yeah, yeah, yeah.
While others huffing, I'm puffing on a sweet life. Well, I don't know,
no, no, no.
I lay back and I watch the grass grow. I like to waste my time.
Yeah.
John Dope de Daft Punk dans l'Agité du Local. Vous êtes toujours à l'écoute de l'autre radio. Dans l'Agité du Local, je le répète, donc pour notre émission quotidienne autour de l'actualité locale. Et puis, il y a une semaine, le 2 juin, avait lieu la Journée mondiale des troubles des comportements alimentaires. Et à cette occasion, Claire, tu as rencontré SAB 53.
Une jeune fille dépense plus de 400 euros dans la nourriture pour ensuite tout régurgiter. C'est malheureusement un des nombreux profils que rencontre Solidarité Anorexie Boulimie à Laval. Aline Lebossé a été atteinte d'un trouble alimentaire de ses 15 à ses 40 ans. Elle est aujourd'hui présidente de cette association.
C'est une association qui a été créée donc en 2013
par trois couples de parents qui avaient l'habitude d'aller au groupe de parole de Rennes. Et du coup, ils se sont dit que ça serait bien de créer du coup une association en Mayenne. Je les ai rejoints donc dès le début, parce que j'ai vu un article dans le journal et je me suis dit, tiens, il existe quelque chose pour les troubles alimentaires en Mayenne. Donc voilà, c'est une association donc essentiellement qui est animée par des parents ou d'anciens malades ou de personnes malades et qui s'adresse à des personnes souffrant de troubles alimentaires, mais aussi aux parents, aux conjoints, à la famille.
Et les actions, c'est plus par exemple des groupes de parole ?
On propose un groupe de parole une fois par mois, donc le troisième samedi de chaque mois. En temps normal, à la maison de quartier du Pavement, à Laval. Là, avec la crise sanitaire, on propose du coup nos réunions, nos rencontres en visioconférence.
Donc il y a quand même un suivi malgré la condition. C'est important pour vous, j'imagine, de tenir ce lien.
Ah oui, oui, oui. Lors du premier confinement, du coup, on n'a pas proposé de rencontre parce qu'on était un peu perdus aussi. On ne savait pas trop comment faire. Et puis après, on nous a parlé de la visioconférence, de faire nos rencontres en visio. On a testé et on a vu vraiment que ça a marché beaucoup et que ça ne touchait pas aussi le même public.
Et est-ce qu'on peut, pour nos auditeurs, peut-être décrire un peu ce que c'est un trouble anorexique et un trouble boulimique ?
Il y a trois grands troubles de conduite alimentaire. Il y a à la fois il y a l'anorexie. Donc l'anorexie, c'est une personne qui va réduire son alimentation, qui va trier, supprimer certains aliments qu'elle estime trop gras. C'est une personne qui va perdre du poids. On parle en moyenne de 15% de son poids de départ. Une personne boulimique, du coup, c'est une personne qui va manger beaucoup en très peu de temps, mais qui, du coup, va compenser ses crises de boulimie, soit en faisant beaucoup de sport, soit en jeûnant les jours d'après, soit, du coup, en prenant divers médicaments pour perdre le poids qu'elle aurait pris avec ses crises. Et le troisième gros trouble alimentaire et qui s'est beaucoup développé avec le confinement, c'est l'hyperphagie. Donc, à l'inverse de la boulimie, parce qu'on n'en parle jamais, l'hyperphagie, mais là, ça a pris beaucoup d'ampleur avec la crise sanitaire. C'est en fin de compte des personnes qui vont manger en grande quantité à longueur de journée sans faim, mais qui ne vont pas du tout compenser, du coup, leur crise. Et du coup, s'ensuit une prise de poids énorme, importante. Et il y a énormément, après, de culpabilité et de perte de confiance en elle, quoi.
Et on sait à quoi c'est dû, j'imagine, aux conditions de la vie quotidienne, à un stress, à ce genre de choses.
Alors, il y a différentes causes, parce qu'on a tendance à dire que derrière chaque personne malade, il y a une histoire différente. Généralement, on y retrouve surtout un contexte familier difficile, un élément perturbateur, enfin, quel qu'il soit, un décès, des violences diverses. C'est souvent ça qu'on retrouve. Après, il y a aussi le fait que ça se développe à l'adolescence et du coup qu'il y a un peu les pertes de repères, la peur de passer à l'âge adulte. C'est beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse.
Et si on se sent un peu concerné par ces problèmes, on se pose peut-être la question d'être concerné ou pas, parce que on peut avoir des troubles alimentaires sans être considéré anorexique ou boulimique, ou est-ce que justement c'est dès qu'on a des petits troubles qu'on peut être considéré comme ça et qu'il faut aller voir quelqu'un ?
Alors, du coup, effectivement, l'importance d'aller voir quelqu'un, c'est quand on se rend compte qu'en fin de compte, on est devenu obsédé par la nourriture, que ça prend vraiment toute la ça prend tout le quotidien, quoi, que la personne ne pense plus qu'à ça. Et que du coup, elle n'arrive plus à vivre sa vie comme avant, quoi. Une personne peut continuer à aller travailler, mais du coup, dans sa tête, ça va être « Ah oui, mais non, mais je ne vais pas manger ce midi, c'est pas grave. » C'est ça, c'est une personne... Après, les parents, ils se rendent souvent compte quand leur enfant perd beaucoup de poids et commence, du coup, soit à trier son alimentation, soit, du coup, refuse de manger avec eux. Là, c'est des signes qui doivent alerter les parents.
Et à qui on s'adresse justement, que ce soit pour les enfants ou pour les adultes, on peut s'adresser aux mêmes personnes ?
Alors, pour les enfants du coup, de moins de 16 ans, du coup, ça va être plus vers la pédiatrie ou pédopsychiatrie. Après, les adultes, après que ça soit adulte ou enfant, je dirais, la première personne qui devrait être concernée, le premier professionnel de santé, c'est le médecin traitant, qui devrait déjà prendre conscience des soucis. Après, c'est à lui, normalement, d'orienter vers des professionnels de santé plus spécifiques s'il y a besoin.
Et vous disiez que vous aviez été touchée par ce trouble un peu plus jeune. Est-ce que grâce à CAB53, ça vous a aidé d'en parler, de prendre la parole justement pendant ces temps de parole ou de voir quelqu'un? Ça vous a aidé?
Du coup, quand j'ai fait connaissance avec l'association CAB53, donc ça faisait plus de 15 ans que j'étais malade et je n'avais jamais eu de suivi par des professionnels de santé spécifiques, spécialisés en TCA. Donc j'avais eu différents suivis, mais pas adaptés. Le fait de pousser les portes de l'association, ça m'a permis de me rendre compte que j'étais pas seule, qu'il y avait d'autres personnes, effectivement, comme moi, qui souffraient de cette maladie. Et du coup, il y a eu une certaine entraide, un soutien que je n'avais pas trouvé à l'extérieur, qui m'a encouragée du coup à commencer des démarches de soins avec des professionnels de santé spécifiques et spécialisés dans les TCA.
Parce que je pensais que le premier mot de cette association, c'est solidarité. Donc il y a vraiment ce lien et cette entraide entre vous pour aller mieux.
Ah oui, là du coup, on le voit de plus en plus parce que du coup, on en a mis en place un groupe WhatsApp. Du coup, pour les personnes qui fréquentent nos groupes de parole, pour du coup qu'il y ait un soutien, que le soutien et l'entraide continuent d'exister entre nos groupes de parole. Parce qu'on se rend compte que un groupe de parole par mois, c'est pas forcément suffisant. Ça aide les personnes. Hein. Beaucoup nous disent que ça leur a permis de se sentir moins seuls, que ça les a aidés à aller voir des professionnels de santé. Mais après, on se dit, après le groupe de parole, la personne, souvent, elle se retrouve de nouveau seule. Donc là, on a mis en place ce groupe-là qui permet aux personnes de continuer de s'entraider. Et ça marche très bien. Du coup, je le propose aux personnes qui participent à un groupe de parole, de façon à ce que que ça ne soit pas n'importe qui puisse participer au groupe WhatsApp.
Et je reviens un peu sur l'actualité. Il y a eu 3 fois plus d'appels en 2020 pour l'association. Et vous disiez avec des profils de plus en plus jeunes, comment vous l'expliquez?
Tout simplement par le fait que le premier confinement, ça perturber tout le monde, d'autant plus les jeunes qui, du jour au lendemain, ont perdu leur repère, se sont retrouvés chez leurs parents 24 heures sur 24, des fois avec un contexte familial pas forcément évident. Et du coup, ça a engendré une montée de stress, d'angoisse, que ces personnes-là, du coup, ont manifesté, du coup, en mangeant plus, ou du coup, en mangeant beaucoup moins. Alors, elles ne s'en sont pas rendues compte forcément tout de suite. C'est après le deuxième confinement, du coup, à la sortie du deuxième confinement, où on a commencé à avoir des appels. Parce que du coup, les personnes allaient vers l'extérieur, du coup, avaient le regard des personnes de l'extérieur. Et là, elles se sont dit, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas. Et on a commencé du coup à recevoir beaucoup d'appels de parents, pour des jeunes de 14, 15 ans, qui du coup leur comportement avait changé, ils étaient beaucoup plus agressifs, les jeunes. Et puis du coup, il y avait... Soit le jeune avait perdu beaucoup de poids et du coup, les parents s'inquiétaient, se sentaient démunis. Soit du coup, c'était des personnes qui s'étaient réfugiées dans la boulimie et n'arrivaient plus à s'en sortir et n'arrivaient pas à s'arrêter, quoi.
Peut-être une aide pour quelqu'un qui a un trouble alimentaire, qu'est-ce que vous lui diriez?
Alors, j'encourage du coup la personne du coup à participer à nos groupes de parole en premier, pour qu'elle puisse se rendre compte que qu'elle n'est pas seule, qu'il y a d'autres personnes qui ont les mêmes difficultés qu'elle. Généralement, en échangeant avec d'autres personnes, la personne se sent moins seule, se sent aidée, se sent soutenue, entourée. Après, la chose qu'on dit et qu'on rappelle toujours, c'est qu'on ne remplace jamais les professionnels de santé. On est des bénévoles, on est des personnes effectivement qui avons connu les troubles alimentaires ou des parents ayant eu des enfants ayant eu des troubles alimentaires. Mais notre but après, c'est d'orienter si besoin les personnes vers des professionnels de santé. Mais de, vraiment de mettre en place un suivi, parce que seul, en fin de compte, on ne peut pas s'en sortir.
Oui, ce que j'allais vous demander, ça prend combien de temps d'en guérir, en tout cas d'aller un peu mieux?
Je dirais que tout dépend s'il y a une prise en charge assez rapide ou pas. Un jeune qui est pris en charge assez rapidement, on va dire s'il est pris en charge un an après le début des symptômes, il va s'en sortir généralement au bout de 3 ans. C'est à peu près les chiffres qu'on a, c'est qu'il faut 3 fois plus de temps pour s'en sortir. Si une personne souffre d'anorexie ou boulimie depuis 10 ans, et ben voilà, faut savoir qu'il faut à peu près 30 ans pour s'en sortir.
C'est quand même vraiment conséquent, même on compare à n'importe quelle maladie, on se dit bon, ouais, il y a un traitement, ce sera réglé. Là, c'est quand même sur du long terme, ça s'explique parce que c'est psychologique.
Parce que il n'y a pas de traitement adéquat. C'est ce que je disais au tout début, c'est que derrière chaque personne anorexique ou chaque personne souffrant de boulimie, il y a un parcours différent. La maladie ne se déclare pas de la même façon, ne se vit pas de la même façon, donc il n'y a pas un traitement. C'est toute une prise en charge globale avec un psychiatre, une psychologue, un médecin nutritionniste qui va faire que la personne va avancer. Après, on a tendance à ne plus parler de guérison, mais de rémission. C'est-à-dire que la personne, du coup, apprend à vivre avec ses troubles alimentaires et du coup, ça la perturbe plus au quotidien. Sur 100 personnes souffrant de troubles alimentaires, voilà, il y a un tiers qui va s'en sortir et qui va réussir à vivre avec, un tiers pour qui ça va devenir chronique et qui va vivre avec ces symptômes-là à vie, et il y a malheureusement un tiers qui ne s'en sortent pas. Et il faut vraiment que les personnes en aient conscience et que les professionnels de santé en aient conscience, c'est qu'il y a encore un tiers des personnes souffrant de troubles alimentaires en 2021 qui décèdent des troubles alimentaires.
Dû au mauvais diagnostic, j'imagine, des professionnels ou...
Alors, soit au manque de diagnostic et à l'absence de diagnostic et de prise en charge, soit parce que la personne a tellement honte d'elle, il y a une culpabilité tellement forte qu'elle va mettre fin à ses jours. C'est la première cause de suicide dans les troubles alimentaires en France.
Donc effectivement, l'association, elle permet de mettre en lumière, j'imagine, de mettre les mots sur des symptômes, des choses qu'on ressent.
On permet aux personnes de parler, d'échanger sur leurs troubles, sur ce qu'elles vivent au quotidien. Ça, c'est la première mission de l'association, c'est vraiment permettre un temps d'échange aux personnes. Après, notre deuxième mission, c'est aussi de faire de la prévention dans les établissements scolaires. Et notre troisième mission, c'est de travailler avec des professionnels de santé. Ça commence à se faire petit à petit en Mayenne, avec le XAPA. On y croit, on est parti de rien. On ose espérer que, voilà, on touchera... Il y en a quelques-uns qui sont des professionnels de santé qui sont touchés par les troubles alimentaires. Si jamais vous sentez concerné par les troubles alimentaires, que vous soyez une personne qui souffre d'anorexie, de boulimie, d'hyperphagie, que vous soyez un parent, un frère, une sœur, un conjoint, ne restez pas seul avec votre souffrance, avec vos fardeaux. L'association est là pour vous accueillir. Vous pouvez nous envoyer un mail, vous pouvez nous contacter par téléphone, mais ne restez pas seul. La parole libère beaucoup.
Prochain rendez-vous du groupe de parole, ce sera par visioconférence, samedi 19 juin à 14h30. Vous pouvez les appeler au 06 68 63 31 40 ou envoyer un mail u.sab@laposte.net pour recevoir le lien de connexion. Et si vous voulez laisser votre témoignage sur ce trouble alimentaire, vous pouvez les appeler au 07 85 09 99 03. Et comme d'habitude, si vous n'avez pas eu le temps de noter tous les contacts, notamment les contacts de l'association, l'émission sera en podcast cet après-midi sur notre site l'autreradio.fr. On fait une petite pause en musique avec Aaron Taylor avec I Want That Fire et on revient tout de suite après.
Something that I feel within. I've got
Aaron Taylor, I Want That Fire dans l'AJT du local sur l'autre radio, c'est ce que vous venez d'entendre évidemment. Et puis on va rester en musique avec une chronique sur les associations du territoire et en l'occurrence, pourquoi je vous ai dit musique, puisque elle est consacrée à l'EMM, l'école moderne de musique de Laval, qui a continué de proposer des cours pendant le confinement. L'interview a d'ailleurs été enregistrée il y a quelques mois par Agnès et je vous propose tout de suite de l'écouter. Musique.
L'association du jour, nous ne sommes pas allés la chercher bien loin, puisqu'il s'agit de l'école moderne de musique de Laval, qui est voisine de l'autre radio à l'espace Comam, juste à côté du square de Boston. Alors, Loïc, qu'on vient d'entendre, est pianiste, mais il est aussi directeur de l'EMM, l'EMM qu'il connaît bien.
Oui, je le connais bien, parce que c'est une association qui a été créée en 1986. Étant musicien depuis l'âge de 7 ans, je souhaitais à partir de 18 ans enseigner le piano et nous, avec mon père, nous avons monté donc cette association.
1986, ça fait un bout de temps. Alors moi, j'étais particulièrement motivée pour faire connaître l'EMM puisque je suis moi-même élève et en ces temps de Covid, les cours continuent. Et on peut se faire croire qu'on est emporté par la foule. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les cours qui continuent ?
Voilà, donc aujourd'hui, on a encore la possibilité de donner des cours à l'association pour les mineurs, pour les instruments seulement. Et on propose aussi des cours à domicile,
oui,
sur Laval.
Dont je suis moi-même bénéficiaire et c'est vrai que c'est un plaisir là, de pouvoir continuer à progresser. Ça fait quelque chose qui continue même en ces temps un peu perturbés. Et alors, les autres instruments qu'on peut apprendre dans votre école ?
On peut prendre des cours de piano, de guitare, guitare basse, ukulélé, tout ce qui est percussion, batterie, trompette aussi et accordéon.
D'accord. Bon, bah avec tout ça, vous avez de quoi faire un bel orchestre.
Oui, tout à fait.
Il y a des occasions de pouvoir entendre nos élèves.
Voilà, nous avions théoriquement prévu des prestations début février qui ont été annulées. Et du coup, en fin de compte, tout est reporté au mois de juin. Donc nous faisons un récital piano, nous faisons un concert de fin d'année avec tous les instruments que nous enseignons. Et nous faisons aussi un masterclass avec le groupe Archimède. On pourra faire de la création avec le groupe Archimède. Ils vont nous expliquer un petit peu le travail d'artiste, le monde de la musique, l'industrie aussi du disque. Voilà, donc théoriquement, tout ça est prévu fin juin, toujours à l'ASCOMAM.
Alors, je sais que le groupe Archimède commence à être bien connu, mais que vous pouvez nous rappeler en quelques mots quand même ce qu'ils font.
Donc, le groupe Archimède, c'est un groupe lavallois. C'est deux frères, Frédéric et Nicolas Boinard, qui ont formé donc, ce groupe Archimède en 2004, donc c'est plutôt style rock, rock français.
D'accord, et ben on a hâte de tous vous entendre et on espère bien sûr que tout ça pourra avoir lieu. Et en tout cas, bravo et merci de faire vivre la musique.
C'est moi qui vous remercie, à bientôt.
Merci beaucoup Agnès pour cette chronique. La prochaine sera à retrouver ce jeudi, mais pas jeudi prochain, jeudi dans 15 jours justement, sur une nouvelle association du territoire mayennais. C'est l'heure des initiatives avec toi Claire et plein de choses prévues pour ce week-end. On commence avec un spectacle de clowns.
C'est le spectacle Desirato Desirata, présenté par deux clowns de la compagnie Sarabande de Fougères. Ils nous présenteront les joies du mariage et les péripéties de la vie en couple par différents sketchs. Ce sera au Théâtre de Laval ce samedi 12 juin à 16h et il faut réserver au 02 43 49 47 81. Ce spectacle est dans le cadre de l'exposition pour les 3-6 ans Guili Guili à la découverte de nourrir, proposée par le Zoom, le Centre de culture scientifique de Laval, et cette exposition est à retrouver tous les jours jusqu'au 3 octobre.
Et évidemment, on fête le Tour de France le 30 juin, jour de l'étape, mais surtout ce dimanche.
Et oui, rendez-vous à l'espace Mayenne pour rencontrer le cycliste sur piste, François Pervis et ses 17 médailles mondiales pour essayer un parcours contre la montre avec un vélo d'appartement pour participer à plein d'autres animations autour du cyclisme et pour aussi découvrir en avant-première l'espace Mayenne. Pour y participer, il faut s'inscrire et il ne reste que quelques horaires de disponibles. Rendez-vous sur le site m-mayenne.com et allez dans la rubrique Le Tour.
Merci beaucoup Claire. Pour être honnête, je ne pensais pas qu'il restait quelques horaires, mais je pense qu'il faut quand même se dépêcher. Il ne doit pas rester énormément de place. Donc un site, on l'a dit, m-mayenne.com pour justement récupérer ces dernières places pour participer à la fête du Tour organisée par le département ce dimanche. Et puis si vous avez d'autres initiatives à nous partager, n'hésitez pas à nous laisser, on le rappelle, un message vocal au 09 70 40 59 40. Et puis petite piqûre de rappel, peut-être pour ceux qui auraient oublié ou en tout cas qui ne nous auraient pas écouté attentivement hier sur notre compte Instagram L'Autre Radio, un jeu concours est en cours. Pour justement remporter, attention, deux places pour le dernier spectacle d'Anne Romanoff au Carré. Ce sera le 24 juin prochain et ils seront chanceux ceux qui vont gagner puisqu'à mon avis ça va partir très très vite. Pour participer donc, rendez-vous sur notre compte Instagram, vous avez jusqu'à jeudi prochain. C'est la fin de notre émission L'Agité du Local de ce jeudi. Merci beaucoup Juliette, merci beaucoup Claire et on se dit à demain.
Merci beaucoup, à demain.
Merci, à demain.
Merci à toutes les deux. Évidemment, à l'antenne, vos émissions préférées se poursuivent. À 19h, il y a Le Masque et la Tronçonneuse avec la saga des Freddy ce soir. À 21h, ce sera Quand la musique est bof avec la bande originale du film Payback de Brian Egeland. Et nous, donc, on se retrouve demain à 12h15 pour la dernière de la semaine. Je vous souhaite une très bonne journée.
Reportage, invité, interview. Voilà, c'est l'agité du local.